Actu SF, les podcasts.
Voilà, c'est bon. Hein ? Ça y est ! Vous m'entendez ? Oui, alors si on pouvait le mettre dans un endroit où ça ne tombe pas. Ah ! Bon, je vais me présenter en attendant. Là, vous avez vu, ce sont mes bouquins. Ça n'a rien à voir avec ce que je vais faire aujourd'hui. Hop, donc voilà, c'est bon. Comme cette année, c'était les auteurs du Nord qui étaient les invités du Festival des Imaginales, j'ai choisi de partager avec vous une mythologie que j'aime beaucoup, la mythologie du Nord, la mythologie des dieux vikings. Alors pour ceux qui me connaissent, d'habitude je fais des conférences, un petit peu ennuyeuses des fois. Je dis un petit peu ennuyeuses parce qu'il m'arrive moi-même de m'ennuyer pendant mes conférences. C'est la raison pour laquelle je vais tenter, le mot est juste, hein, voyez, je vais tenter une nouvelle approche. Et cette nouvelle approche, eh bien, c'est de non pas vous faire une conférence sur, merci Odin, sur les dieux des Vikings, mais de vous faire une sorte de conterie, de spectacle sur les dieux des Vikings. Donc, le costume, on en parle. On a très peu de documents sur les costumes des Vikings, mais le rouge est une couleur que l'on retrouve beaucoup sur les miniatures. Ah, et puis je vais en décevoir quelqu'un, ils n'ont jamais eu de cornes sur leur casque. Ils avaient des casques très plats comme ça. Donc cette robe aurait pu être une robe viking. La cape, non, elle est un peu découpée celle-là, mais aussi. La fourrure aussi, voilà, on va se dire que je suis une prophétesse viking qui va vous raconter l'histoire de ce monde. Et donc, comme tout ça est assez compliqué, j'ai tous les départs de musique, parce que c'était trop simple de le faire sans musique, vous comprenez, quitte à bien galérer. Donc, il faut qu'on parte avec Marie-Alice qui fait la technique, il faut qu'on parte ensemble, que je vienne là. Donc là, t'es sur l'ouverture. Après, normalement, après, ça va tout seul. Allez, hop. Non, mais je ne suis pas sur rechercher. Il faut que je parte de là. Voilà. Attends, hiver, hydracine. Qu'est-ce qui m'a fait ? Mais qu'est-ce qui m'a fait là ? Et non, il me manque les premiers là. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Il me manque tous les premiers. Oh, c'est pas possible ça. Attends. Je vise une marée de boucliers et de lances déferlées dans la grande plaine de Vigrid. Ils étaient tous là, les dieux, les géants, les guerriers valeureux et le cortège des morts. Tous prêts à s'affronter une dernière fois. C'est à moi, la prophétesse, qu'Odin, le père de toutes choses, envoya cette vision et bien d'autres, car il voulut que je raconte l'histoire de ce monde, comment il naquit et comment il s'éteignit dans le chaos. Au début des temps, il n'y avait ni terre, ni ciel. Dans le néant, deux mondes entouraient un immense abîme. Au sud, le monde de Muspelheim fait de feu et de flammes. Nul ne peut y pénétrer, car le géant Surt se tient à sa frontière avec son épée flamboyante. Au sud, au nord, le monde glacial de Niflheim. En son centre se trouvait une source d'où jaillirent des fleuves qui se déversèrent dans l'abîme et se figèrent en masses de glace. Les vents chauds qui venaient de Muspelheim firent fondre la glace et de cette eau jaillit la vie. Une forme humaine apparut, Ymir. Un être gigantesque, un être mauvais comme le furent ses descendants. Un jour, tandis qu'il dormait, il transpira et sous son aisselle gauche se développèrent un homme et une femme. Une de ses jambes engendra un fils. Ainsi naquit la race des géants du givre. Le géant Ymir avait une vache pour le nourrir. De ses des gouttes de givre s'écoulaient telles des fleuves de lait. Un soir, tandis qu'elle léchait le givre salé qui recouvrait les rochers, une chevelure d'homme sortit de la pierre. Le lendemain, une tête émergea. Et le troisième jour, ce fut un homme entier qui apparut. Il était beau et fort. Il eut trois fils d'une géante. Le premier fut Odin, le souverain qui régna sur la terre et le ciel. Le deuxième, Vili, et le troisième, Vé. Ainsi naquirent les premiers dieux. Ils transportèrent le géant Ymir au milieu de l'abîme et le mirent en pièces. Avec sa chair, ils créèrent la terre et ses os devinrent des montagnes, ses dents et ses brisures d'os des rochers. Ses cheveux furent transformés en arbres. Avec son sang, ils firent la mer et les lacs. La mer fut placée en cercle tout autour de la terre afin de la maintenir. Nul ne pouvait la franchir. Avec le crâne d'Ymir, ils firent le ciel, qu'ils placèrent au-dessus de la terre et transformèrent son cerveau en nuages. Il s'écoula tellement de sang des blessures d'Ymir que tous les géants s'y noyèrent, à l'exception d'un couple qui s'embarqua dans un tronc d'arbre évidé. C'est de cet homme et de cette femme que naîtront les nouvelles générations de géants du givre. Dans la chair en putréfaction d'Ymir, des vers étaient nés. Les dieux décidèrent de les changer en nains. Ils leur donnèrent intelligence et force humaine. Quatre d'entre eux furent choisis pour soutenir le ciel à ses quatre angles. Les autres restèrent sous la terre et dans les pierres jusqu'à la fin des temps. Pour éclairer la terre et la voûte céleste, les dieux prirent les étincelles qui s'échappaient de Muspelheim et les envoyèrent dans le ciel. Les unes furent placées fixement, les autres restèrent mobiles, mais les dieux réglèrent leurs mouvements. Point ne savait le soleil où ses demeures se situaient. Point ne savait la lune, quel pouvoir elle possédait. Point ne savait les étoiles où leur site se trouvait. Ainsi furent créés l'univers et les premières races qui le peuplèrent. Tandis qu'Odin et ses frères marchaient sur le rivage de la mer, ils trouvèrent deux troncs d'arbres allongés sur le sol. Ils les relevèrent et façonnèrent les premiers hommes. Odin leur donna le souffle de la vie, Vili l'intelligence et le mouvement, Vé l'apparence, la parole, l'ouïe et la vue. Ils les vêtirent et les nommèrent. L'homme fut appelé Ask et la femme Ambla. Ce fut d'eux que naquit la race humaine. Les dieux se servirent des cils d'Ymir pour entourer l'intérieur des terres de fortifications destinées à protéger les hommes des géants du givre et autres trolls. Ce fut la terre de Midgard, la terre du milieu, qui fut donnée aux humains. Ensuite, les dieux construisirent un fort céleste. Ce fut le monde d'Asgard, destiné aux résidences des dieux et des déesses. Pour relier la terre au ciel, ils bâtirent un pont Bifrost, le pont aux trois couleurs, fait avec plus d'art et de talent que tous les autres ouvrages. Le rouge de cet arc-en-ciel est un feu ardent qui empêche les géants du givre et des montagnes de le franchir. Asgard dans sa magnificence, ses temples et ses halles. La halle des dieux aux 12 sièges, toutes faites d'or pur. Le sanctuaire réservé aux déesses. Je vis les forges où l'on fabriquait les outils qui permirent de travailler le métal, la pierre et le bois. L'or aussi, qu'ils avaient à profusion et dans lequel ils faisaient nombre de leurs objets. C'est pourquoi cette époque fut appelée l'âge d'or. C'est à Asgard que se trouve le trône d'Odin, d'où il peut contempler la totalité des mondes. Il voit tout et comprend tout. À ses côtés se tient Frigg, son épouse, qui n'ignore rien du destin des hommes, bien qu'elle n'énonce jamais aucune prophétie. Je vis, comme je vous vois, les plus glorieux des dieux. Je vis Thor, premier fils d'Odin, qui dépasse en force tous les autres dieux. Sa halle est la plus grande d'Asgard. Il possède un char tiré par deux boucs et trois objets fort précieux. Mjolnir, son marteau, Yarngreip, ses gants de fer, et Megingjorg, la ceinture qui double sa force. Mjolnir avait été forgé par les nains. Peu importe ce qu'il frappait, et la force avec laquelle il était lancé, jamais il ne s'abîmait et jamais il ne ratait sa cible. Aussi loin que Thor le lançait, il revenait toujours dans sa main et savait se faire si petit que le dieu pouvait le cacher dans sa blouse. J'ai vu Baldr, deuxième fils d'Odin, le plus sage des As, le plus clément et le plus habile à parler. Il était beau, bon et brillant, émettait une telle lumière qu'il rendait pur tout ce qu'il touchait. J'ai vu Njord, du pays des Vannes, qui a pouvoir sur la force du vent. Ses enfants, Freyr, dieu de la pluie, du soleil et des fruits de la terre. Freya, déesse de l'amour et de la fécondité, sur son char, tiré par deux chats. J'ai vu Tyr, le sage, hardi et courageux. Vidar, le silencieux, presque aussi fort que Thor. Il possède une épaisse chaussure faite des morceaux de cuir que les hommes rognent à la pointe et au talon. J'ai vu Heimdall, l'as blond aux dents d'or, grand et sacré, enfanté par 9 vierges qui étaient sœurs. C'est lui qui garde Bifrost, le pont. Car il a moins besoin de sommeil qu'un oiseau, voit très loin de jour comme de nuit à 100 lieues à la ronde, entend pousser l'herbe et la laine sur les moutons. Il a une trompe dont on perçoit le son dans tous les mondes. Et puis j'ai vu Loki, le traître, la honte des hommes et des dieux, aussi beau que mauvais. Je l'ai reconnu sous toutes ces métamorphoses. L'âge d'or dura des siècles, mais un jour se réalisèrent les prophéties. Les frères s'affronteront et se mettront à mort. Les cousins violeront les lois sacrées du sang. L'horreur règnera parmi les hommes, la débauche dominera. Viendra l'époque des haches et l'époque des épées, brisés seront les boucliers. Viendra l'époque des tempêtes et l'époque des loups, avant que le monde ne s'effondre. Les runes avaient dit vrai. 3 longs hivers se succédèrent sans été. 3 longs hivers au cours desquels se déroulèrent d'incessantes batailles qui ensanglantèrent tous les mondes. Combats, meurtres, incestes, trahisons, partout régnait l'horreur. Puis un jour, le ciel s'assombrit. 2 loups, fils de la géante qui vivait dans la forêt de fer près des femmes trolls, poursuivait depuis toujours le soleil et la lune. Devenus très puissants, grâce au sang des hommes à l'agonie dont ils se rassasiaient, ils firent par dévorer ses astres, et ni Mani, qui menait le char de la lune, ni Sol, sa sœur, qui conduisait celui du soleil, ne parvinrent à les en empêcher. Les étoiles aussi disparurent. Les loups recrachèrent le sang dont ils s'étaient nourris et en aspergèrent le ciel tout entier. Après la disparition des astres célestes, les tremblements de terre secouèrent tous les mondes, ceux des dieux, des géants, des alfes et des nains. Ils firent s'écrouler les montagnes, les arbres furent déracinés. Yggdrasil, le grand frêne qui relie tous les mondes, fut secoué lui aussi. Yggdrasil est un frêne gigantesque dont les branches s'étendent sur toute la terre et dominent le ciel. Yeah. sur sa cime demeure un aigle au vaste savoir. Tout un tas de bêtes vivent dans ses ramures. On y trouve un faucon, un écureuil, mais aussi quatre cerfs qui courent dans les branches et broutent les jeunes pousses. Yggdrasil possède trois grosses racines qui courent dans trois mondes. La première aboutit dans le monde des géants du givre, près d'une source qui renferme la sagesse et l'intelligence. Celui qui la possède se nomme Mimir, la mémoire. Il a un immense savoir, car chaque jour, il boit l'eau de la source à l'aide de sa corne. Un jour, Odin se rendit à cette source et demanda à y boire. Mimir l'y autorisa, à condition qu'il mette en gage l'un de ses fils. Le dieu accepta, et c'est ainsi qu'il devint mort. La deuxième racine couvre le monde de Niflheim jusqu'à la source primitive d'où jaillirent les fleuves de glace qui se déversèrent dans l'abîme. Cette source remplie de serpents abrite le dragon Nidhogg qui ronge peu à peu la racine d'Yggdrasil. L'aigle qui vit au sommet de l'arbre et ce dragon se détestent. Ils ne cessent de s'adresser des paroles haineuses par le biais de l'écureuil qui leur sert de messager et passe son temps à courir de haut en bas et de bas en haut le long du frêne. La troisième racine chemine dans le ciel jusqu'à la source sacrée du destin dans laquelle nagent deux cygnes. C'est à cet endroit que les dieux tiennent conseil. Chaque jour, ils y montent à cheval en empruntant le Bifrost, excepté Thor, qui s'y rend à pied. Près de la source se trouve une halle splendide où demeurent trois vierges. Ce sont des Nornes qui ont pour mission de façonner le destin des hommes. La source sacrée possède une eau si pure que tout ce qui y pénètre devient d'une grande blancheur. Les trois Nornes se servent de la blanche qui l'entoure pour en asperger la racine d'Yggdrasil afin d'éviter qu'elle se dessèche ou se mette à pourrir. Trois autres Nornes demeurent dans la Valhalla avec les Valkyries. Je les ai vus, les Valkyries, qu'Odin envoie dans les batailles pour décider de la victoire et désigner les combattants qui doivent mourir. Je les ai vus dans la Valhalla, servir à manger et à boire aux guerriers morts au combat. Je les ai vus, ces déesses aux ailes d'oiseaux, voler de cadavre en cadavre le jour de la grande bataille. Cinq centaines de portes et quatre dizaines en outre, j'estime que compte la Valhalla. Huit centaines de guerriers sortiront en même temps par chaque porte lorsqu'ils iront se battre avec les loups. Ils sont nombreux, ces guerriers, qui tous les jours continuent de s'affronter par jeu. Ils sont nourris avec la chair d'un sanglier que l'on fait bouillir chaque matin dans le chaudron magique Eldrimnir. Et chaque soir, l'animal, encore entier, reprend vie. Odin participe à ce banquet quotidien, bien qu'il n'ait nul besoin de manger le vin suffisant à le nourrir. Il donne sa part à ses deux loups. Deux corbeaux sont perchés sur ses épaules, Mumin et Ugin. Tous les jours à l'aube, le dieu les envoie voler à travers les mondes et ils reviennent à l'heure du déjeuner lui chuchoter à l'oreille tout ce qui s'est passé. Du pis de la chèvre et drune coule l'hydromel dont on remplit une cuve si grande que tous boivent à satiété. Quand survinrent les premiers tremblements de terre, la peur s'empara des créatures de tous les mondes. Mais pire encore, les liens se rompirent et Loki et ses terribles enfants furent libérés. Le dieu Loki avait eu trois enfants d'une géante. Le premier était le loup Fenrir. Le deuxième, le serpent Jormungand, et le troisième, la déesse El. Les dieux apprirent par prophétie qu'ils connaîtraient une grande infortune à cause d'eux. C'est pourquoi Odin demanda aux dieux de s'en saisir et de les lui amener. Lorsqu'ils furent devant lui, il prit le serpent et le jeta dans la mer. Mais il grandit tellement qu'il finit par entourer la terre en se mordant la queue. Ensuite, Odin précipita elle l'effroyable à la peau mi-noire mi-bleue dans le Niflheim glacial et obscur et lui donna pouvoir sur les hommes qui meurent de maladie et de vieillesse. Le loup géant Fenrir fut élevé par les dieux As. Seul Tyr était assez hardi pour le nourrir. Mais chaque jour, le loup grandissait un peu plus et les prophéties ne cessaient de dire qu'il provoquerait la mort d'Odin. Alors il fut décidé de l'enchaîner. Le premier lien qui fut fabriqué ne résista pas à la force de Fenrir. Un deuxième lien, deux fois plus solide que le premier, fut placé autour des pattes du loup qui le brisa. Alors, Odin envoya un messager dans le monde des elfes noirs pour demander aux nains de fabriquer un lien qui ne se romprait pas. Ils se mirent au travail. Ils mélangèrent six ingrédients. Le bruit du pas des chats, la barbe des femmes, les racines des montagnes, les tendons des ours, le souffle des poissons et la salive des oiseaux. Cela donna un lien lisse et souple, comme un ruban de soie. Dès que les dieux As furent en possession de ce lien, ils partirent sur un îlot situé au milieu d'un lac et demandèrent à Fenrir de les accompagner. Là, ils lui montrèrent le lien de soie et lui proposèrent de tester sa force en le déchirant. Fenrir comprit bien vite que ce lien était magique et ne voulut pas le mettre. Mais les As insistèrent. « Si tu ne parviens pas à rompre ce lien, tu ne seras pas en mesure d'effrayer les dieux. Alors, nous te libérerons. » Fenrir se doutait qu'il s'agissait d'un piège. Il répondit « Si vous m'attachez de façon telle que je ne puisse pas me libérer, vous vous serez joué de moi. Et je devrais attendre longtemps avant d'obtenir votre aide. Je ne suis donc pas disposé à passer ce lien sur moi. Mais puisque vous me reprochez de manquer de courage, si ce lien est sans tromperie, que l'un d'entre vous mette sa main dans ma gueule. » Les dieux étaient bien embarrassés. Aucun ne voulait offrir sa main jusqu'à ce que Tyr, le courageux, tendît la sienne, la droite. pendant que l'on entourait le loup du lien magique. Fenrir tenta de se dégager en réunissant toutes ses forces, mais n'y parvint pas. Plus il faisait d'efforts, plus le lien devenait dur. Les dieux étaient ravis. Ils se mirent à rire, sauf Tyr, qui y perdit la main. Ensuite, les Ases attachèrent le cordon à une grande pierre plate qu'ils enfoncèrent dans le sol. Le loup se débattait, tentait de les mordre. Alors ils lui plantèrent une épée en travers de la gueule. C'est ainsi qu'il fut condamné à rester jusqu'au crépuscule des dieux. Chaque jour, il rugit, et de sa gueule coule de la bave qui forme comme un grand fleuve. Ainsi finirent les fils de Loki le mauvais. Mais lui aussi se retrouva enchaîné pour s'être attaqué à Baldr le lumineux, deuxième fils d'Odin. Baldr fit des rêves pleins de menaces sur sa vie. Il en informa Odin et quelques dieux As qui se réunirent afin de trouver un moyen de le protéger. Ils décidèrent d'envoyer Frigg faire jurer au feu, à l'eau, au fer, au métal, aux pierres, au bois, aux animaux sauvages et aux maladies que jamais il ne ferait de mal à Baldr. Lorsque la déesse eut accompli sa mission, les dieux firent quelques essais. Ils lancèrent des flèches et des pierres sur Baldr. Mais rien ne pouvait l'atteindre. Ils continuèrent à se divertir comme ça, en l'attaquant de diverses façons. Loki, qui assistait à cette scène, ne partagea pas la satisfaction des autres dieux. Il se demandait comment Baldr avait acquis ce pouvoir. Alors il prit l'apparence d'une femme et alla trouver Frigg, qui lui expliqua ce qui se passait. Le feu, l'eau, le fer, le métal, les pierres, le bois, les animaux sauvages et les maladies, tous avaient prêté serment, juré que jamais ils ne feraient le moindre mal à Baldr. Enfin, presque. Elle n'avait pas sollicité une petite branche de gui. C'était inutile. Elle était bien trop frêle et bien trop fragile pour que Baldr eût à en souffrir. Loki comprit tout de suite l'avantage qu'il pourrait en tirer. Il se fit indiquer l'endroit où se trouvait ce rameau et alla le chercher. Ensuite, il rejoignit les dieux qui continuaient à tester l'immunité de Baldr et proposa à Odr, l'aveugle, de participer au jeu en lançant la petite branche de gui. Il guida sa main et le gui traversa Baldr comme l'aurait fait une flèche. Mortellement touché, Baldr s'écroula sur le sol. Alors un grand silence se fit. Les dieux restèrent figés de stupeur et d'incompréhension. Puis tous éclatèrent en sanglots. Odin était dévasté, car il savait ce que représentait la mort de Baldr pour Asgard. Lorsque les dieux reprirent leurs esprits, Frigg prit la parole et demanda qui voulait gagner ses faveurs en chevauchant jusqu'au royaume des morts afin de récupérer Baldr contre une rançon. Hermod, fils d'Odin, s'offrit pour cette expédition. On alla chercher le cheval à huit pattes d'Odin. Hermod l'enfourcha et partit au galop. Pendant ce temps, les dieux transportèrent le cadavre de Baldr jusqu'à la mer près de son bateau. Ils voulurent le mettre à l'eau pour célébrer les funérailles, mais le bateau n'avança pas d'un pouce. Alors Odin envoya chercher la géante Hyrokin, qui arriva sur son loup, un serpent venimeux lui servant de bride. Elle s'approcha de l'étrave du bateau et d'un coup le lança avec une telle force que la terre en trembla. Lorsque le cadavre de Baldr fut placé sur son bateau pour sa crémation, Nana, sa femme, ressentit un tel chagrin qu'elle tomba morte, brisée de douleur. Alors, on la porta sur le bûcher. On y plaça aussi le cheval de Baldr avec tout son harnachement. Puis Odin s'avança et déposa sur le corps de son fils l'anneau d'or Dropnir. Il était forgé par les nains et chaque neuvième nuit, il était capable de produire 8 anneaux du même poids. Odin mit le feu au bûcher. Thor le consacra avec son marteau. Des êtres de tous les mondes assistaient à ses funérailles. Tous les dieux étaient là, de même que les corbeaux d'Odin et les Valkyries. Il y avait aussi un grand nombre de géants du givre et de trolls. Tous pleuraient Baldr le pur, qui s'en était allé dans le royaume des morts. Hermod chevaucha durant 9 jours jusqu'au royaume des morts. Lorsqu'il y parvint, il vit Baldr, son frère, assis sur un siège d'honneur. Il passa la nuit avec lui. Et le lendemain, Hermod alla trouver elle, la fille de Loki qui régnait sur ces lieux. Il la supplia de permettre à Baldr de retrouver chez les Ases qui étaient en grand pleurs. Mais elle voulut s'assurer que Baldr était aussi aimé qu'on le disait. Elle dit à Hermod, « Si toute chose au monde, vivantes ou mortes, le pleurent, il rentrera chez lui. Mais si l'une d'elles s'y refuse, je le garderai ici, près de moi. » Hermod se leva et sortit de la halle. Baldr l'accompagna jusqu'aux portes de Hel. Lorsque Hermod raconta son histoire au dieu As, ils envoyèrent des messagers dans tous les mondes pour prier tout un chacun de pleurer Baldr, afin de le libérer de elle. Tous le firent, les hommes et les animaux, la terre et les pierres, les arbres et les métaux, tous, sauf une géante qui refusa et les renvoya en disant « Ni vif, ni mort, du fils du vieux, je n'eus à me réjouir. Que elle garde ce qu'elle a. » Cette géante malfaisante n'était autre que Loki qui avait pris cette apparence. Les dieux voulurent donner à Loki la punition qu'il méritait. Mais Loki s'échappa et partit se cacher dans la montagne. Il s'y bâtit une cabane avec 4 portes, de sorte qu'il pouvait voir de tous les côtés. Durant le jour, il se métamorphosait en saumon et se dissimulait dans une cascade. Une nuit, alors qu'il était en train de fabriquer un filet pour attraper du poisson, il vit les Ases qui s'avançaient vers sa cabane. Il jeta le filet au feu et s'enfuit. Mais les dieux qui virent le filet dans le feu se mirent à en tresser un autre et allèrent le lancer dans la cascade. À plusieurs reprises, Loki parvint à s'échapper. Il remonta le fleuve jusqu'à la mer, mais là, soit il se jetait dans la mer au péril de sa vie, soit il tentait de sauter au-dessus du filet. C'est cette deuxième solution qu'il choisit. Mais Thor, d'un geste vif, se saisit du poisson. Les dieux emmenèrent Loki dans une caverne. Ils prirent 3 pierres plates qu'ils relevèrent et attachèrent le dieu avec les boyaux de 2 de ses fils qu'ils avaient changés en loups et qui s'étaient entretués. Puis ils placèrent un serpent venimeux au-dessus de lui, de sorte que le venin dégouline sur son visage. Ainsi devait demeurer Loki jusqu'à la fin des temps. Sa femme Sigyn est restée près de lui, du matin au soir, et du soir au matin, elle tient une bassine au-dessus de la tête de son époux pour qu'y tombent les gouttes de poison. Dès que sa cuvette est pleine, elle s'empresse d'aller la vider, et pendant ce temps, le venin qui coule sur Loki le fait tressaillir si violemment que la terre entière se met à trembler. Ils resteront ainsi jusqu'au jour où se rompront tous les liens, ceux de Loki et ceux de ses enfants prêtant à en découdre avec les dieux qui les ont si longtemps retenus prisonniers. Alors, commencera le Ragnarok, le début de la fin. J'ai vu le ciel se déchirer et surgir les géants de feu de Muspelheim montés sur leurs chevaux. À leur tête se tient Surt, entouré de flammes, brandissant son épée plus étincelante que le soleil. Heimdall, le gardien du Bifrost, donne l'alerte. Il souffle de toutes ses forces dans sa trompe pour réveiller les dieux. Tous les royaumes l'entendent. D'Alfheim, dans le ciel, où vivent les alfes lumineux plus beaux que le soleil, au monde souterrain des alfes ténébreux plus noirs que la poix. Tandis qu'Odin se rend à la source de Mimir pour lui demander conseil, les guerriers du Muspelheim chevauchent sur le Bifrost qui se brise sous les sabots de leurs chevaux. Ils doivent continuer leur route à la nage. Dans les 9 mondes, tous se mettent en ordre de marche. La dernière bataille va bientôt commencer. Les dieux As ont revêtu leur armure et s'avancent dans la grande plaine de Vigrid. Ils sont accompagnés des Valkyries et de tous les guerriers de la Valhalla. En tête chevauche Odin le borgne, coiffé de son casque d'or. Il porte sa précieuse lance Gunnir forgée par les nains qui ne rate jamais sa cible. Thor, ton fils, est à ses côtés. Il porte le marteau Mjolnir qu'il tient avec ses gants de fer et a entouré son torse de sa ceinture de force. Njord mène la tribu des Vannes, entourée de ses 2 enfants, Frey et Freya. Face à eux s'avancent les géants du givre, Surt et les géants du feu, Loki et ses effroyables enfants, accompagnés des morts du cortège de Hel. Le serpent souffle tellement de venin qu'il en remplit l'air tout entier. Le loup Fenrir s'avance, la gueule grande ouverte. Sa mâchoire inférieure rase la terre, la supérieure touche le ciel. Des flammes jaillissent de ses yeux et de ses narines. Un terrible combat s'engage. Cris de guerre et hurlements font un vacarme épouvantable. Les cadavres des dieux, des guerriers et des géants s'entassent sur le sol qui ne tarde pas à redevenir rouge de sang. Freyr, dieu des fruits de la terre, ne résiste pas longtemps à la puissance de Surt. Odin s'élance pour affronter Fenrir, mais le loup l'engloutit tout entier. Vidar se rue sur Fenrir. Il maintient au sol sa mâchoire intérieure avec son épaisse chaussure. D'une main saisit la mâchoire supérieure du loup et lui déchire la gueule. Thor lutte avec le serpent et finit par le tuer. Mais le monstre a craché sur lui son venin mortel et Thor fait 9 pas avant de tomber à terre. Loki est toujours debout. Il se précipite sur Heimdall, le gardien du Bifrost. Tous deux luttent avec acharnement et se tuent l'un l'autre. Alors, Surt s'avance au milieu de la plaine. Il lance des flammes de tous côtés et incendie le monde entier. Le feu a ravagé les 9 mondes, mais Yggdrasil est toujours debout seul. Au milieu des cendres. Les dieux, les géants et les guerriers s'en sont allés. Les uns, bons et justes, ont rejoint le 3e ciel, celui où demeurent les alphes lumineux. Ils y vivront éternellement en paix. Les autres, les mauvais, sont condamnés à habiter tout en bas du 9e monde, dans une halle tressée d'échines de serpents, tourmentée par le dragon Nidhogg. Avant de périr sous les crocs de Fenrir, Sol a donné naissance à une fille qui s'est élancée dans le ciel pour suivre le chemin de sa mère. Sous ce nouveau soleil va naître un nouveau monde. Là où se trouvaient les anciens mondes, ravagés par le feu et recouverts par la mer, surgit une nouvelle terre, verte et belle. C'est là que se retrouveront ceux qui ont survécu au désastre. Vidar, le silencieux, et Baldr, le pur, de même que les enfants de Thor. Ils trouveront les tablettes d'or qui avaient appartenu au dieu Az. Ils évoqueront tous ensemble leurs antiques secrets. Un couple humain a échappé à la mort, Lif, la vie. Et Lif Thrasir, ardent de vivre, qui s'était réfugié dans le bois de Hodimir. Ils auront une descendance si nombreuse que le monde entier en sera peuplé. Alors, que dansent ensemble les fils des dieux et les fils des hommes. Merci. Merci. Bonne suite de festival à tout le monde. Merci.